On aura peine à me persuader que l'histoire de l'enfant prodigue ne soit pas la légende de celui qui ne voulait pas être aimé. Tant qu'il était un enfant, tous l'aimaient chez lui. Il grandit, il ne connaissait pas autre chose et s'habitua à leur tendresse douillette tant qu'il était enfant. Mais lorsqu'il fut adolescent, il voulut se défaire de ses habitudes. Il n'aurait pu le dire, mais lorsqu'il rôdait dehors toute la journée et ne voulait même plus avoir les chiens avec lui, c'était parce que eux aussi l'aimaient, parce que leurs yeux l'observaient et prenaient part, attendaient et s'inquiétaient, parce que devant eux non plus, on ne pouvait rien faire sans réjouir ou blesser. Mais ce qu'il souhaitait alors, c'était cette indifférence intime de son cœur qui, le matin tôt, dans les champs, le saisissait avec une telle pureté qu'il commençait à courir pour n'avoir ni temps ni haleine, pour n'être plus qu'un léger instant du matin qui prend conscience de soi. Le secret de sa vie qui n'avait encore jamais été s'étendait devant lui. Involontairement, il quittait le sentier et courait plus loin à travers champs, les bras étendus, comme si dans cette largeur il avait pu s'emparer de plusieurs directions à la fois. Et puis il se jetait n'importe où, derrière un buisson, et il n'avait de valeur pour personne. Il écorçait une flûte de saule, il lançait un caillou dans la direction d'un petit fauve, il se penchait en avant et obligeait un scarabée à faire demi-tour. Tout cela ne devenait pas du destin, et les cieux passaient au-dessus de lui comme sur la nature. Enfin venait l'après-midi avec toutes ses inventions. On était un boucanier sur l'île Tortuga et on n'avait aucune obligation à l'être. On assiégeait Campeche, on prenait d'assaut Veracruz. On pouvait être l'armée entière ou un chef à cheval ou un bateau sur la mer, selon l'humeur qui vous animait. Mais si l'envie de vous agenouiller vous prenait, on était aussitôt Déodat de Gozon, et l'on avait abattu le dragon, et l'on apprenait que cet héroïsme était de l'orgueil sans obéissance, car on n'épargnait rien de ce qui faisait partie du jeu. Mais quel que fût le nombre des imaginations qui surgissaient, on avait cependant toujours encore le temps de n'être qu'un oiseau, on ne savait lequel. Sauf qu'après, il y avait le retour. Mon Dieu, de quoi fallait-il alors se dépouiller et combien de choses oublier? Car il fallait oublier pour de vrai, c'était nécessaire. Sinon, on se serait trahi lorsqu'ils insistaient. On avait beau hésiter et se retourner, le pignon de la maison enfin apparaissait quand même. La première fenêtre là-haut vous tenait sous son regard. Quelqu'un peut-être y était. Les chiens chez qui l'attente s'était accrue toute la journée durant traversaient les buissons et vous ramenaient à celui qu'ils croyaient reconnaître en vous. Et la maison faisait le reste. Il suffisait d'entrer à présent dans son odeur pleine et déjà presque tout était décidé. Des détails pouvaient encore être modifiés. En gros, on était déjà celui pour lequel ils vous tenaient ici, celui à qui ils avaient depuis longtemps composé une existence faite de son petit passé et de leurs propres désirs. Cet être de communauté qui jour et nuit était placé sous la suggestion de leur amour, entre leur espoir et leurs soupçons, devant leur blâme ou leur approbation. À un tel être, il ne sert de rien de monter l'escalier avec d'infinies précautions. Tous seront au salon, et il suffit que la porte s'ouvre pour qu'il regarde tous dans sa direction. Il reste dans l'obscurité, il veut attendre leurs questions, mais alors vient le pire. Ils lui prennent les mains, ils le tirent vers la table, et tous, autant qu'ils sont, s'avancent curieusement devant la lampe. Ils ont beau jeu, ils se tiennent à contre-jour, et sur lui seul tombe avec la lumière toute la honte d'avoir un visage. Restera-t-il et mentira-t-il cette vie d'à peu près qu'il lui attribue? et parviendra-t-il à leur ressembler de tout son visage? Se partagera-t-il entre la véracité délicate de sa volonté et la tromperie grossière qui la corrompt pour lui-même? Renoncera-t-il à devenir ce qui pourrait nuire à ceux de sa famille qui n'ont plus qu'un cœur faible? Non, il partira. Par exemple, lorsqu'ils sont tous occupés à lui préparer sa table d'anniversaire, avec ses cadeaux mal devinés qui doivent encore une fois tout compenser. Partir pour toujours. Beaucoup plus tard seulement, il se rappellera avec quelle fermeté il avait alors décidé de ne jamais aimer, pour ne placer personne dans cette situation atroce d'être aimé. Des années plus tard, il s'en souvient, et comme les autres projets, celui-là aussi a été irréalisable. Car il a aimé, et encore aimé dans sa solitude, chaque fois en gaspillant toute sa nature et dans une crainte terrible pour la liberté de l'autre. Il a lentement appris à faire passer les rayons de son sentiment à travers l'objet aimé au lieu de l'en consumer. Et il était gâté par l'enchantement de reconnaître, à travers la forme de plus en plus transparente de l'aimé, les profondeurs qui s'ouvraient devant sa volonté de possession infinie. Combien pouvait alors le faire pleurer, des nuits durant, le désir d'être lui-même traversé par de tels rayons? Mais une femme aimée qui cède n'est de longtemps pas encore une femme qui aime. Ô nuit sans consolation, qui lui rendait ses dons en morceaux lourds d'éphémères. Comme il pensait alors au troubadour qui ne craignait rien tant que d'être exaucé. Il donnait tout l'argent acquis et multiplié pour ne plus recommencer cette expérience. Il les blessait en les payant grossièrement, par crainte de plus en plus grande qu'elles ne pussent essayer de répondre à son amour. Car il avait perdu l'espoir de connaître l'aimante qui le traverserait. Même au temps où la pauvreté l'effrayait tous les jours par de nouvelles duretés, où sa tête était l'objet préféré de la misère et tout usé par elle, où partout sur son corps s'ouvraient des ulcères comme des yeux de secours contre la noirceur de ses tribulations, et où il frémissait d'horreur devant les immondices sur lesquels on l'avait abandonné parce qu'il était pareil à ses ordures. Même alors encore, lorsqu'il réfléchissait, sa plus grande terreur était qu'on lui eût répondu. Qu'étaient toutes ces obscurités, auprès de l'épaisse tristesse de ces étreintes dans lesquelles tout se perdait? Ne se réveillait-on pas avec le sentiment d'être sans avenir? N'allait-on pas, par-ci et par-là, dépourvu de signification, sans avoir droit à aucun danger? N'avait-on pas dû promettre 100 fois de ne pas mourir? Peut-être l'entêtement de ce mauvais souvenir qui de retour en retour voulait se conserver une place, faisait-il durer sa vie parmi les ordures? Enfin, on retrouvait de nouveau ce sentiment de liberté. Et alors seulement, durant les années que l'on resta pâtre, ce passé nombreux s'apaisa. Qui décrira ce qui lui arriva alors? Quel poète a le don de persuasion capable d'accorder la longueur de ses jours d'alors avec la brièveté de la vie? Quel art est assez vaste pour savoir évoquer en même temps cette forme mince sous son manteau et toute l'abondance d'espace de ses nuits immenses? C'était le temps où il commença à se sentir une chose dans l'univers, et anonyme comme un convalescent qui hésite. Il n'aimait pas, sauf cependant qu'il aimait à être. L'affection basse de ses brebis ne lui pesait pas. Comme une lumière tombe à travers les nuages, elle se répandait autour de lui et brillait doucement sur les prés. Sur la trace innocente de leur faim, il marchait silencieux à travers les pâturages du monde. Des étrangers le virent sur l'acropole, et peut-être fut-il longtemps un des pâtres dans les beaux, Et vit-il le temps pétrifié survivre à la haute race qui eut beau acquérir tant de sept et de trois, sans triompher des 16 rayons de son étoile. Ou dois-je l'imaginer à Orange, appuyé à l'arc de triomphe rustique? Dois-je le voir dans l'ombre familière aux âmes d'Alican, tandis que son regard, entre les tombeaux qui sont ouverts comme les tombeaux de ressuscités, poursuit une libellule? N'importe, je vois au-delà de lui, je vois son existence qui aborda alors le long amour vers Dieu, le long travail silencieux et sans but, car lui qui avait voulu se contenir pour toujours fut encore une fois dominé par la nécessité intime de son cœur qui ne pouvait pas autrement. Et cette fois, il espéra être exaucé. Sa nature, à laquelle la longue solitude avait prêté une divination imperturbable, lui promit que celui-là auquel il pensait à présent saurait aimer d'un amour qui rayonne et qui transperce. Mais tandis qu'il désirait d'être ainsi aimé, avec une telle maîtrise, son sentiment habitué aux longues distances comprenait l'extrême éloignement de Dieu. Vinrent des nuits où il crut s'élancer vers Dieu à travers l'espace, des heures pleines de découvertes, durant lesquelles il se sentait assez fort pour replonger vers la terre et l'enlever, l'emporter sur les hautes marées de son cœur. Il était pareil à un homme qui entend une langue merveilleuse et fiévreusement se propose d'écrire dans cette langue. La frayeur l'attendait encore d'apprendre combien difficile elle était. Il ne voulut d'abord pas croire qu'une vie entière pût se passer à former les phrases des premiers exercices qui n'ont pas de sens. Il se jeta dans l'apprentissage comme un coureur dans la course, mais l'épaisseur de ce qu'il fallait surmonter le ralentissait. On ne pouvait rien imaginer de plus humiliant que ce début. Il avait trouvé la pierre de la sagesse, et voici qu'on le contraignait à changer sans cesse l'or rapidement produit de son bonheur en le plomb grossier de la patience. Lui qui s'était adapté à l'espace, forait comme un ver des couloirs tortueux sans issue ni direction. À présent qu'il apprenait à aimer avec tant de peine et de chagrin, il lui apparaissait combien négligent et misérable avait été jusqu'à présent tout l'amour qu'il croyait accomplir. Et il comprenait qu'aucun de ses sentiments n'avait pu se développer parce qu'il n'avait pas commencé à y consacrer le travail nécessaire pour le réaliser. En ces années, les grands changements s'opérèrent en lui. Le dur travail de se rapprocher de Dieu lui fit presque oublier Dieu lui-même et tout ce qu'il espérait peut-être à la longue obtenir de lui, était sa patience de supporter une âme. Il s'était depuis longtemps détaché des hasards du destin auxquels tiennent les hommes, mais à présent, même les plaisirs et la douleur nécessaires perdaient leur arrière-goût épicé et devenaient pour lui purs et nourrissants. Des racines de son être jaillissait la plante forte et vivace d'une joie féconde. Il s'épuisait à s'assimiler ce qui faisait sa vie intérieure. Il ne voulait rien omettre, car il ne doutait pas que son amour fût et s'accrût en tout. Oui, sa tranquillité d'âme allait si loin qu'il décida de rattraper le plus important de ce qu'il n'avait su accomplir autrefois, de ce qu'il avait laissé passer dans l'attente. Il pensait surtout à l'enfance. Plus il réfléchissait avec calme, plus elle lui paraissait inachevée. Tous ses souvenirs avaient le vague des pressentiments, et qu'ils fussent passés les faisait presque ressortir à l'avenir. Et c'est pour assumer encore, et cette fois vraiment, tout ce passé, que devenu étranger, il retourna chez lui. Nous ne savons pas s'il resta, nous savons seulement qu'il revint. Ceux qui ont raconté cette histoire essayent, parvenus à ce point, de nous rappeler la maison telle qu'elle était. Car là, il ne s'est écoulé que peu de temps, un peu de temps compté, tout le monde dans la maison peut dire combien. Les chiens ont vieilli, mais vivent encore. On rapporte que l'un d'eux poussa un hurlement. Tout le labeur quotidien s'interrompt. Des visages apparaissent aux fenêtres, des visages vieillis et mûris, d'une ressemblance touchante. Et l'un des visages, l'un des plus vieux, tout à coup pâle, reconnaît. Il reconnaît? Vraiment ne fait-il que reconnaître? Il pardonne. Pardonne quoi? Mais non, l'amour. Mon Dieu, l'amour. Lui que l'on a reconnu, il n'y pensait même plus tout occupé qu'il était. Il ne pensait même plus que l'amour pût encore être. Il est inexplicable que de tout ce qui arriva alors, on ne nous ait transmis que ceci, son geste, le geste inouï que l'on n'avait jamais vu auparavant, le geste de supplication avec lequel il se jeta à leurs pieds, les conjurant de ne pas l'aimer. Effrayés et chancelants, ils le relevèrent. Ils interprétèrent son élan à leur manière en lui pardonnant. Il a dû se sentir singulièrement rassuré que tous, malgré l'évidence désespérée de son attitude, se soient mépris. Il put probablement rester, car de jour en jour, il reconnut davantage que l'amour dont ils étaient si vaniteux et auquel ils s'encourageaient en secret les uns les autres ne le concernait pas. Il avait presque envie de sourire lorsqu'il s'efforçait, et il devenait clair combien peu il pouvait penser à lui. Que savait-il de lui? C'était maintenant terriblement difficile d'aimer, et il sentait qu'un seul en serait capable, mais celui-là ne voulait pas encore.